Voilà, les enfants rejoignent leur groupe d'école du dimanche. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début du culte. Alors, nous sommes le dimanche après Pâques, le deuxième dimanche de Pâques, dit-on traditionnellement. Et nous avons commencé la semaine passée à méditer en deux parties. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15. Le grand chapitre sur la résurrection, à la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu donc les premiers versets et aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième partie, les versets 35 à 49, qui parlent plus spécifiquement de la puissance du Christ qui nous ressuscitera dans un corps glorieux comme le sien. Écoutons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, versets 35 à 49. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, avec quel corps reviennent-ils? Insensé, dit l'apôtre Paul. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain. De blé, de quelque autre semence peut-être. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, et sans parler des poissons. Il y a aussi des corps célestes dans le ciel, des corps terrestres sur terre. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, par exemple. Autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et c'est pourquoi il y est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Et le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Seigneur, à qui rions-nous qu'à toi, tu es les paroles de la vie éternelle. Et c'est humblement que nous voulons t'écouter ce matin nous parler. Amen. Alors, la bonne nouvelle de la résurrection, c'était dimanche passé, mais c'est toujours la même ce matin. Hein. Le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Notre pire ennemi a été vaincu. Jésus est revenu de la mort à la vie. Et nous pouvons, du fond du cœur, dire gloire à Dieu, alléluia. Il est vivant, aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'événement plus important que la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. C'est le cœur de l'Évangile, le cœur du cœur de l'Évangile. Et cet événement passé est le fondement de notre espérance à venir. Alors tout ce magnifique chapitre 15 de cette lettre de Paul aux Corinthiens, de cette première lettre de Paul aux Corinthiens, nous fait tourner le regard vers notre résurrection à venir. À cause de la victoire de Pâques il y a 2000 ans. Donc on a vu la première partie avec Christ qui est les prémices des ressuscités la fois passée. Et aujourd'hui donc une seconde partie qui met l'accent plutôt sur notre corps, le corps des ressuscités que nous serons. Alors il y a la résurrection soulève. Nous avons donc un avenir merveilleux, mais quand même, la résurrection, cet avenir soulève bien des questions. Et Paul, donc, anticipe avec deux questions. C'est des questions qu'il a entendues autour de lui, c'est peut-être des questions qu'on lui a transmises. En tout cas, il y a deux questions qui se posent et qui sont toujours posées aujourd'hui, hein, dans nos rapports avec les incroyants. Parfois, ce sont des questions qui sont au fond de notre cœur aussi, hein, qui sont légitimes. Alors, première question, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils ? Autrement dit, comment est-ce possible pour les morts de revenir à la vie ? Par quelle force ? Un corps décomposé, hein, un corps en poussière, un corps éparpillé, hein, peut-il ressusciter ? C'est une vraie question. Et puis la deuxième question, avec quel corps reviennent-ils ? Autrement dit, allons-nous revenir dans le même corps ou dans un corps totalement différent ? Au temps de Paul, bien des gens, hein, qu'ils soient païens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, se posaient ces questions, encore aujourd'hui, donc nous avons les mêmes questions. Et voici la réponse. La puissance du Christ nous ressuscitera dans un corps glorieux comme le sien. La puissance du Christ nous ressuscitera dans un corps glorieux comme le sien. Et Paul apporte deux témoignages. Tout d'abord, dans les versets 36 à 41, c'est le témoignage de la création. Et ensuite, dans les versets 42 à 49, c'est le témoignage de la résurrection, on va dire. Alors, tout d'abord, Paul commence par présenter le témoignage de la création, hein, autour de nous. Car contrairement aux apôtres, nous n'avons jamais vu un mort revenir à la vie. En tout cas, je pense, hein, la plupart d'entre nous. Cependant, nous voyons de nos yeux, hein, le témoignage de la création. Paul donc commence par ce que nous avons, ce que nous voyons de nos yeux, nous, en général. C'est une bonne façon d'ailleurs de commencer avec les gens qui sont sceptiques ou avec des personnes qui se posent beaucoup de questions sur ce sujet. Alors ça peut paraître étonnant, mais quand nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de choses qui peuvent nous aider à croire dans la résurrection. Si on regarde par exemple le phénomène agricole, on va dire, hein, bien connu, hein, de la semence. Hein. Un vieux jardinier de ma famille était toujours émerveillé, hein, par ce phénomène de la vie. Hein. La semence qu'on met en terre, meurt, hein, et puis ensuite, hein, elle donne la vie. Hein. Et c'est ce phénomène dont parle Paul. Hein. Il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Verset 36. Alors, qui est donc l'insensé ? Le croyant ou l'incrédule ? Alors, c'est l'incrédule, hein, car nous voyons devant nos yeux la puissance de Dieu en action dans la création, tous les jardiniers le voient. Et nous pensons parfois, on pense que le corps, une fois enterré, hein, ne peut pas revenir à la vie. C'est pas possible, une telle contradiction. Hein. Cette même puissance à l'œuvre dans la création peut aussi bien être à l'œuvre dans la nouvelle création. Alors, si on regarde la graine de blé, une fois disparue dans la terre, la graine revient à la vie, en quelque sorte, pour produire quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. On y reviendra tout à l'heure. Un petit pépin, hein, produit un pommier, hein, qui à son tour produira, hein, plusieurs centaines de pommes chaque année, hein, s'il n'y a pas de gel, bien sûr. Alors voyez toute la force qui se déploie à partir d'une toute petite graine enfouie dans la terre. Ça nous paraît banal, bien sûr. On est encore 2000 ans après Paul. Ça nous paraît encore plus banal dans notre siècle sophistiqué. Pourtant, quand on y pense, c'est la puissance de Dieu en action. Alors quand l'incrédule dira « Je n'ai jamais vu un mort ressuscité, alors je ne peux pas croire à la résurrection, je ne crois que ce que je vois. » Le croyant lui répondra gentiment, « Je vois la puissance de Dieu en action de manière étonnante autour de moi. » Alors qu'est-ce qui empêche Dieu de faire une action encore plus étonnante ? Vous vous demandez comment la résurrection est possible ? Insensé. Regardez cette graine qui meurt et qui produit pourtant une abondance de vie ensuite. Donc, entre la graine mise en terre et la plante qui en résulte, il existe des différences aussi, dit Paul. Mais aussi, il existe des différences, mais aussi des ressemblances. Par exemple, un érable, c'est énorme. On va prendre un arbre de la ville. Hein. Un érable, c'est énorme, mais il ne peut produire qu'un érable. il ne produira jamais un plant de tomate. On est d'accord. Dieu est puissant, mais il est cohérent dans ce qu'il fait. Et Paul souligne d'abord la différence. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain. Verset 37. Puis il note la ressemblance. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 38. Donc chaque semence produit selon son espèce. Donc voilà déjà pour résumer un début de réponse. Comment les morts ressuscitent-ils ? Par la puissance de Dieu. Un peu comme la puissance en action sous nos yeux, dans la création et dans les jardins. Avec quel corps les morts reviennent-ils ? Eh bien avec un corps très différent et en même temps très semblable. Notre nouveau corps ne sera pas un corps de vache, un corps de singe ou un corps de grenouille. Ce sera un corps humain en chair et en os, le même corps que nous avons, mais bien meilleur par contre, bien supérieur, à la fois pareil et différent. Exactement comme le corps de notre Sauveur Jésus, qui a été crucifié, qui a été transpercé, qui a été mis au tombeau ensuite, qui s'est relevé, ressuscité, qui a été glorifié. C'était un corps supérieur. Pendant son ministère, il marchait sur les routes. Et comme tous ses apôtres, il ouvrait les portes pour aller d'une pièce à l'autre. Et après sa résurrection, il passait par les portes fermées. Et il allait en Galilée sans prendre le RER. Mais par contre, c'était un vrai corps. Ils ont pu le toucher, Jésus les a invités à toucher son corps. Et il a pu manger aussi devant ses disciples. Donc voilà notre corps futur. Et dans les versets suivants, Paul s'intéresse à la deuxième question. Avec quel corps ressuscite-t-il ? D'ailleurs, c'est la question qui nous intéresse aussi, n'est-ce pas ? À quoi ressemblerons-nous quand nous reviendrons à la vie ? Alors pour répondre, Paul observe encore la nature. Il dit, verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair. » Ah, c'est un simple regard sur les choses nous amène à cette conclusion. Si on fait une petite excursion zoologique, on voit qu'il y a la chair des hommes, il y a la chair des animaux, des oiseaux, des poissons, dit Paul. Un poisson, un oiseau, un mammifère, un humain sont tous différents. Puis, il nous invite à faire une petite excursion astronomique. Voilà, on ne va pas s'étaler, mais il y a toutes sortes de corps terrestres, célestes, et même les corps célestes sont différents, soleil, lune, étoile. Elles diffèrent d'éclat. L'une est plus brillante, l'autre moins. L'une est rouge, l'autre est bleue. Voilà. En tout cas, et donc, toutes ces créatures sont constituées des mêmes matériaux de base, quelque part. Hydrogène, carbone, oxygène, azote, etc. Et pourtant, on peut voir leur immense diversité. Les atomes, c'est un peu comme des blocs de Lego qui nous permettent de construire un tas de choses qui permettent en tout cas de construire un tas de choses différentes, en fin de compte. Alors, avec quel corps allons-nous ressusciter ? Eh bien, avec un corps qui aura la même substance de base que notre corps aujourd'hui, mais qui aura des propriétés très différentes. Ce sera notre corps humain, mais grandement amélioré. Complètement, on va même dire, transformé. Et si Dieu est capable de faire deux étoiles d'éclat différents, eh bien, il est certainement capable de ressusciter notre corps avec un éclat bien supérieur à notre corps actuel. Alors, l'observation donc de la création nous est très utile. Mais elle a bien sûr ses limites. Et pour en savoir plus, eh bien, on doit écouter la révélation spéciale que Paul a reçue de Dieu. Et nous arrivons donc dans les versets 42 à 49 à ce témoignage de la résurrection. À partir du verset 42, Paul nous fait regarder maintenant vers la résurrection à venir. Et il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Alors, on va dire, les sceptiques surtout vont dire, arrêtez un peu là. Le témoignage de la création, nous pouvons l'observer, d'accord. Mais la résurrection à venir, qui l'a déjà vue pour pouvoir en parler ? Tout ce que nous voyons, ce sont des hommes qui naissent, qui vivent, qui meurent, et leur corps qui se décompose ensuite. Voilà ce que les sceptiques peuvent dire à ce moment-là. Et on peut répondre, c'est vrai. Du moins, c'est vrai pour nous. Mais n'oublions pas une chose, notre espérance de la résurrection repose sur des événements qui se sont déjà produits. Notre espérance de la résurrection à venir est fondée sur le Christ ressuscité, qui a été vu par des témoins oculaires. Et au début du chapitre 15, Paul en parle, on l'a vu la fois passée. Paul commence en fait, non pas dans ce chapitre 15, il commence en fait, non pas par le témoignage de la création, mais par les témoins de la résurrection. Et on l'a lu la fois passée, versets 5 à 8, il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis par les 12, ensuite il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, dit Paul. Donc ces témoins étaient au départ des sceptiques, il ne faut pas l'oublier. Eux aussi, ils étaient sceptiques au départ. Ils étaient tous des Thomas, qui voulaient voir et toucher pour croire. Thomas, lui, l'a dit, en tout cas, l'a exprimé. Eh bien, ils ont vu, ils ont touché le Seigneur Jésus ressuscité. Ils ont finalement cru parce qu'ils ont vu et parce que le Saint-Esprit a ouvert leur cœur incrédule. La foi, ils sont passés du brouillard à la pleine lumière, comme on l'avait dit la fois passée. La foi est fondée sur des faits réels, pas sur des hypothèses ou même des bons raisonnements. La foi est fondée sur des faits réels que l'Esprit utilise ensuite dans nos cœurs pour nous donner confiance en lui, pour faire saisir les promesses qui se rattachent à ces faits historiques. Et Paul dit, au verset 17, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Si cet événement ne s'était pas produit, si la résurrection ne s'était pas produite, eh bien, notre prédication serait inutile. Nous n'aurions aucune espérance. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que de nombreux témoins ont rendu ce témoignage de la résurrection, qu'ils ont mis ensuite par écrit. Et nous pouvons dire, Christ est vraiment ressuscité, il a été vu en chair et en os. Alors, Paul fait partie de ces témoins. Bien qu'il l'ait vu seulement plus tard, une dizaine d'années plus tard, et de manière différente des autres apôtres, sur le chemin de Damas, on voit ça en acte 9, Paul, quand même, l'a tout de même très bien vu, lui aussi. Il l'a entendu. Alors, Paul est certainement autorisé à nous parler de la résurrection à venir, puisqu'il a vu le Christ ressuscité. Donc, pour résumer, avec quel corps les morts qui croient en Christ reviendront à la vie, avec un corps semblable à celui du Christ ressuscité. Mais ceci dit, la résurrection est quand même a toujours une part de mystère. Il reste encore bien des questions. Mais quand même, la magnifique description des versets 42 à 45 nous suffit amplement et nous encourage aussi, réellement. Quatre fois, dans ces versets, Paul répète « semé d'une façon », on l'a appuyé quand j'ai lu le texte, « semé d'une façon, on ressuscite d'une autre façon ». Quatre fois. Comme la graine qui tombe en terre, qui meurt et qui reprend vie selon son espèce, mais beaucoup mieux. « Semé corruptible, dit-il, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, glorieux. Semé plein de faiblesse, plein de force. » Quelle belle espérance nous avons en tant que chrétiens. Notre corps deviendra incorruptible. Pensez donc, notre corps deviendra immortel, resplendissant de gloire, plein de force. On peut vraiment se consoler, mais aussi s'encourager par ces paroles. Et elles sont d'actualité, puisque jamais, après toute une période de pandémie, nous savons très bien que nous sommes mortels. Et à beaucoup de gens, la pandémie l'a rappelé, plus ou moins. La pandémie l'a rappelé à tous, d'ailleurs. Quelle est notre réaction face à cette mort certaine qui nous attend? À moins que le Seigneur ne revienne avant, bien sûr. Regardons à Jésus. Voilà ce que nous dit la Bible. il est vraiment ressuscité. En lui, nous avons une merveilleuse espérance, celle de retrouver notre corps en chair et en os, mais cette fois immortel, incorruptible, saint, S-A-I-N, vigoureux. Nous ne serons plus jamais alors affligés d'aucune maladie. Nous n'aurons plus aucune infirmité, plus de mal de dos, plus de migraines, aucun nez qui coule, etc. Aucun danger d'attraper des virus malfaisants. Nous serons toujours en parfaite santé. Nous serons rayonnants de beauté et de gloire. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça aussi qui est magnifique. Parce qu'à l'extérieur, on veut bien y croire un peu, mais l'intérieur, il y a du boulot. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous serons semblables à notre parfait Sauveur, à notre parfait Seigneur Jésus le Christ. En dehors de cette espérance, tout ce qui reste aux hommes, ce sont de faux espoirs. Il faut bien le dire. Et ces faux espoirs peuvent aller dans trois directions. D'abord, le faux espoir qu'on pourrait éviter le jugement de Dieu en s'imaginant qu'après la mort, il n'y a plus rien. Ça, c'est un faux espoir, parce qu'il y a quelque chose. Il y a Dieu. Le faux espoir de la réincarnation aussi. En s'imaginant revenir dans un corps d'animal, par exemple, avec le but ultime de disparaître pour toujours dans le grand vide cosmique. Faux espoir. Le faux espoir aussi, plus actuel, du transhumanisme qui espère, par la science, améliorer nos capacités physiques et mentales à travers les progrès de la médecine, de la génétique, de la biotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle. On en avait parlé il y a quelques années, ici même. Au fond, toutes ces techniques, tous ces espoirs, toutes ces pistes, on remplace le Dieu créateur et rédempteur pour essayer d'atteindre l'immortalité par soi-même. Quelle déception pour tous ceux qui auront suivi ces fausses pistes, quel faux espoir. Alors soyons-nous réalistes. La mort nous attend, inéluctable, impossible à vaincre par nous-mêmes. Voilà ce que nous dit la Bible. Pour ressusciter incorruptible et plein de gloire, il faut d'abord mourir. Et pour mourir en paix, dans l'espérance de la résurrection, il faut d'abord trouver refuge en Jésus, mort et ressuscité pour nous. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul est puissant pour nous ressusciter. Alors, que dit ce verset 44, qui pose des fois un petit peu de... Et quand je l'ai lu tout à l'heure, je vois bien que la tournure du texte peut nous poser des questions. Ce mes corps naturels, c'est ça qu'on a dans nos Bibles, on ressuscite corps spirituel. Alors, c'est quoi un corps spirituel? Là aussi, il y a de fausses pistes. Est-ce qu'il s'agit d'un corps immatériel, comme le corps d'un fantôme? Vous voyez, on passe dedans, il n'y a rien. On voit ça dans les films. Est-ce que ça serait un esprit flottant dans les airs? Certains chrétiens espèrent, et surtout au temps de Paul déjà, certains chrétiens espéraient se débarrasser de leur corps. Il y avait la philosophie grecque qui sévissait à Corinthe, et certains chrétiens pensaient que le corps était la prison de l'âme. Et donc, si nous pouvions, disait-il, nous libérer de toute cette misère sur la terre pour enfin ne plus avoir de corps et nous envoler au ciel. Et ils mettaient dans le corps tout le problème. Eh bien, pas du tout. C'est une idée païenne qui n'a rien à voir avec l'espérance chrétienne. Nous n'espérons pas sortir de la prison de notre corps pour nous envoler au ciel. Nous espérons habiter sur la nouvelle terre avec notre corps, un corps nouveau, notre corps, en chair et en os. Un vrai corps, mais un corps transformé, on l'a dit. Un corps puissant, rayonnant de beauté, parfaitement adapté au nouvel environnement que seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et quand Paul, dans les versets 47 à 49, établit un contraste entre le terrestre et le céleste, il n'est pas en train de dire que nous serons comme des nuages vaporeux dans le ciel. Non, il annonce une réalité nouvelle venant du ciel, mais qui sera vécu dans les pieds bien sur terre, dans la nouvelle création, dans notre corps glorifié. Alors à notre mort, bien sûr, le corps et l'âme vont se séparer. C'est ça la mort. Mais c'est temporaire. Voilà la bonne nouvelle. En attendant que les deux corps et âmes soient à nouveau réunis à la résurrection d'entre les morts. On peut traduire plus précisément le verset 44 de la façon suivante. Ce mes corps animé, c'est-à-dire contrôlé par notre âme, ce mes corps contrôlé par notre âme, on ressuscite corps spirituel, contrôlé par l'esprit, on va dire. Donc le contraste n'est pas entre la matière et l'esprit, le contraste est entre l'âme et l'esprit. Nous avons aujourd'hui un corps animé, contrôlé par notre âme, qui est c'est depuis la création. Un corps qui est une âme qui est encore pécheresse, bien que purifiée et déjà transformée en partie, mais quand même pécheresse, encore pécheresse. Mais au dernier jour, nous aurons un corps entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit. Un corps spirituel, c'est un corps dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. À notre résurrection, notre corps sera complètement, on va dire, rempli du Saint-Esprit, sous son règne parfait. Et alors, nous serons parfaitement humains. Nous serons parfaitement humains. Alors, on peut voir encore à cet égard le verset 45. Le premier homme, donc Adam, devint un esprit vivant, une âme vivante, littéralement. Et le dernier Adam, sous-entendu Jésus, le Christ, est devenu un esprit vivifiant. Alors, on peut se dire, mais quand est-ce que Jésus, ce dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant? Quand? Eh bien, c'est à la résurrection. À la résurrection, son corps est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit qui donne vie. Puis, à la Pentecôte, le Christ a déployé cette puissance. Le Christ ressuscité est puissant pour nous donner son esprit vivifiant. Il nous a déjà donné la vie nouvelle par son esprit. Un jour, eh bien, il fera l'œuvre complète dans nos corps. Alors, nous attendons donc ce mieux encore. Nous attendons quelque chose d'important. Au dernier jour, son esprit vivifiant nous ressuscitera. Notre corps sera entièrement sous la direction du Saint-Esprit. Et là, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Ce sera merveilleux. Nous serons alors parfaitement saints. Imaginez ça. Dans tout notre être, l'âme et le corps. Comme le Seigneur est parfaitement saint. Nous serons resplendissants de gloire, à l'extérieur comme à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous serons aussi dans un environnement parfait, dans l'environnement parfait de la nouvelle création. Alors, ça nous émerveille. Et ce texte, écrit il y a 2000 ans, est toujours là pour avec sa puissance, pour une puissance extraordinaire, pour nous émerveiller, pour fonder notre foi. Alors, si on concluait, on dirait que sommes-nous prêts à mourir? C'est ça la seule question qui vaille. Sommes-nous prêts à mourir? Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Le Christ est ressuscité, on l'a dit. Il a vaincu la mort, il est le fondement de notre espérance. Il promet de nous ressusciter aussi, incorruptibles, en pleine santé, rayonnant de beauté. Bien. Autre question, sommes-nous certains que cet avenir nous appartient? Pas à notre voisin de gauche, pas à notre voisin de gauche, pas à notre voisin de droite, ou à nos parents, ou à nos enfants. Est-ce qu'il nous appartient? Est-ce qu'il m'appartient cet avenir? Et voilà. Et donc, la semaine passée, on avait dit que Christ est ressuscité comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement seront ressuscités. Verset 20-23. Les prémices, on l'avait dit, sont les premiers fruits, la première partie de la récolte. Si vous avez un jardin et que vous cultivez, par exemple, du maïs, je sais que quelqu'un d'entre nous cultive du maïs, quand vous trouvez le premier épi qui est mûr, vous savez ce qui s'en vient après. Une belle récolte vous attend. Et la résurrection du Christ est le premier fruit de la grande récolte à venir. Jésus ressuscité, alors le grand jour de la résurrection des morts, eh bien, va venir de façon certaine. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Quel avenir merveilleux nous avons, comme nous l'avons dit. Alors, ça change tout, notre vie, dès à présent. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes malades, ou comme nous sommes devant la mort, ne doutons pas de notre résurrection. Il n'y a pas de plus grand encouragement que cette résurrection. Nous sommes promis à un brillant avenir. La promesse de cet avenir nous soutient dans ces moments-là. Elle nous guide dans ces moments difficiles. Elle nous réconforte chaque jour dans l'attente de son retour. Amen.